Bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Spartman à la technique. Oui, j'espère que vous êtes bien reposés durant cette longue fin de semaine de la fête de la journée des Patriotes. Alors, un petit bonjour à Nicolas rapidement. Hein. Nicolas, ça va?
Ben oui, ça va bien. Ça va, ça, et toi, ça va bien, Fulgence?
Oh oui, ça va bien.
Je parle trop vite des fois, fait que mes mots s'en, s'en mêlent.
Alors, tout de suite après là, le générique, le jingle de l'émission, Louise Thibault est déjà au bout du fil pour nous parler de quoi? Pour nous parler de quoi? Collation et bouger pour un corps et un cerveau en santé. C'est de ça qu'elle va nous parler. À 17h15, je reçois Anna Graziani, qui est propriétaire de la boutique de fleurs Floriste Italia, qui va nous parler de l'exposition Fleurs de Ville Femmes qui se passe au complexe des Jardins jusqu'au 29 mai. Et en deuxième partie d'émission, à 17h30, je reçois Marc Boucher, qui est le directeur général et artistique du Festival Classica de Saint-Lambert. Festival Classica de Saint-Lambert, c'est la 12e édition. Allez, à tout de suite. Louise est déjà au bout du fil, donc on va avec elle. Elle n'est pas avec moi en studio, mais elle est en studio avec moi à travers le téléphone.
Oui.
Bonjour, Louise.
Près, tout près, quand même.
Ah, tout près. Collation et bouger pour un corps et un cerveau en santé.
Oui, ça veut dire quoi?
Voilà, les bienfaits de collation et aussi de bouger pour rester en santé de corps et d'esprit. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes?
Et aussi deux livres coup de cœur qui appuient ce dont je vais vous parler aujourd'hui.
Oui.
Alors voilà, je pose souvent la question aux personnes qui me demandent si elles ont une bonne alimentation,
oui.
Si il leur arrive de manger entre les repas et en soirée.
Oui.
Et c'est peut-être déjà une habitude chez plusieurs personnes qui nous écoutent, ou peut-être chez toi, Fulgence, ou chez Nicolas. Donc, est-ce qu'on collationne ou pas?
Donc, oui, collationner, il faut expliquer. C'est quoi collationner? Parce que si au sens propre du terme, c'est manger des trucs légers, ou bien, je ne sais pas, boire...
En fait, une collation, c'est un mini-repas.
Oui.
Hein, c'est un petit repas.
Oui.
Alors, si on mange un sac de chips ou on prend une barre de chocolat, on peut pas appeler ça, c'est pas vraiment une collation.
C'est pas ça, c'est grignoter.
C'est grignoter, c'est ça. Alors moi, je vous parle d'une collation dans le cadre d'une bonne alimentation.
Ok, d'accord.
Et si vous mangez entre les repas, ça peut être bien.
Oui.
Tout dépend de ce que vous mangez. Mm-hmm. Donc, si vous mangez sur le pouce le midi, vous mangez rapidement. Il y a certaines personnes qui mangent en marchant ou qui mangent en travaillant. Ou si vous soupez tard, eh bien, il est possible qu'une collation de l'après-midi soit nécessaire. Ça pourrait vous aider à garder votre niveau d'énergie. Mais il faut choisir les bons aliments. Alors, je vous ai déjà dit, une collation, c'est un mini-repas. Et comme on en a déjà parlé, certains aliments vont vous permettre de rester alerte, alors d'autres vont vous permettre de vous détendre. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des collations qui vont vous garder énergique et alerte pendant la journée. Donc, il est important aussi que vous sachiez que les aliments que vous mangez dans les collations, ils sont aussi importants que les aliments que vous mangez au repas. Autrement dit, ce sont des aliments de bonne qualité.
Oui.
Et on peut collationner le matin, l'après-midi ou même en soirée. Alors ça, c'est pas grave. L'important, c'est que vous en ayez vraiment besoin.
Oui.
Alors commençons par la collation de la matinée. Alors si vous prenez un bon déjeuner le matin, une collation au milieu de matinée n'est peut-être pas nécessaire.
Ce qu'on appelle le petit déjeuner, oui.
Oui, le petit déjeuner en Europe,
oui.
Et le déjeuner au Québec, mais le breakfast.
Oui.
Alors, mais si c'est une habitude pour vous de collationner, ça pourrait être bien parce que c'est une habitude, vous en avez besoin pour rester alerte, pour garder votre niveau d'énergie. Donc, c'est bien. Mais sachez que la collation de la matinée, elle ne remplace pas le petit déjeuner.
Oui.
En fait, moi, dans mes écrits, dans mes consultations, je suggère souvent aux gens qui ne mangent pas le matin de prendre un mini déjeuner.
Avant d'arriver au repas de midi.
Ben, c'est ça. Alors, mini-déjeuner, c'est plus important qu'une collation, mais laissez-moi vous donner quelques exemples de collations de matinée qui pourraient être bonnes pour vous. Par exemple, un petit muffin maison. Alors, pourquoi je dis petit? Ben parce que la plupart du temps, dans les commerces, les muffins sont gros, sont même énormes. Alors, si vous n'avez pas le choix, ben mangez-en la moitié de ce gros muffin et un petit morceau de fromage. C'est quoi un petit morceau de fromage? Ben, c'est un morceau qui va avoir à peu près la taille de votre pouce. C'est tout. Et accompagnez ça d'une boisson. Alors, de l'eau, qui est la boisson à privilégier.
De toutes les façons, on boit toute la journée alors. Moi, je bois toute la journée.
Oui, c'est très bien. Alors, un thé, un café, caféiné ou pas, ou une tisane, mais essayez de prendre une boisson qui n'a pas beaucoup de calories. Et c'est important de s'hydrater tout au long de la journée. Alors, quand on mange, ben, c'est une bonne façon de se rappeler qu'il faut s'hydrater. Un autre exemple de collation de matinée, un demi-bagel, grillé si vous pouvez, avec un peu de fromage à la crème, un peu de confiture. Un petit yogourt, par exemple une demi-tasse, 125 ml, avec deux biscuits secs. Vous pouvez aussi prendre un fruit avec un petit morceau de fromage, la grosseur d'un pouce. Un fruit tout seul, c'est pas suffisant. Alors, vous avez pu remarquer que dans mes collations, ben, il y a toujours plus d'un aliment. Et ça nous fait penser que, ben, une collation, c'est un petit repas.
Oui.
Donc, collationner le matin, c'est aussi une bonne stratégie pour ceux qui font de l'exercice ou qui s'entraînent avant le repas du midi. Et il y a plusieurs personnes qui travaillent dans des bureaux ou même en télétravail qui ont gardé cette habitude-là de s'entraîner avant le repas du midi. Donc, c'est une bonne chose de prendre une collation le matin parce que vous allez avoir des bonnes réserves. Maintenant, je dois ajouter que la tendance côté mode de vie, c'est de bouger. Alors, bouger, c'est devenu aussi important que bien manger pour une bonne santé. Et ça fait longtemps que les nutritionnistes, les gens qui promouvoient l'activité physique le savent, mais au dernier congrès de l'ACFAS, alors laissez-moi vous dire qu'est-ce que c'est l'ACFAS, c'est l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Alors, c'est une association de scientifiques canadiens qui a eu son dernier congrès au début du mois de mai en collaboration avec l'Université Laval. Et j'ai vu plusieurs conférences.
C'est là où on parlait des scientifiques francophones, d'ailleurs.
C'est ça. Mmh. Alors, j'ai vu plusieurs titres de conférences et résumés de conférences qui font valoir les vertus de l'exercice physique en combinaison avec une bonne alimentation pour la santé.
Oui.
Et il y a deux nutritionnistes qui l'ont compris et qui ont écrit un livre de nutrition qui s'intitule « Manger et bouger intuitivement ».
Oui.
Alors ça, ça marque quand même un nouveau courant dans les livres d'alimentation parce qu'on ne parle pas seulement des aliments, des repas, on parle aussi de faire de l'exercice physique. Alors c'est quand même assez nouveau, c'est publié chez l'éditeur Saint-Jean et ces nutritionnistes-là, elles s'appellent Geneviève Nadeau
oui.
et Karine Paiement, qui nous parlent d'alimentation, mais qui nous parlent aussi du poids comme un faux indicateur de bonheur. Alors, j'ai déjà parlé du livre « À 10 kilos du bonheur », ben, qui parle justement du fait que le poids, c'est un indicatif de bonheur. Et bien là, elles en parlent de long en large. Elles nous parlent aussi comment vivre une vie épanouie, comment prendre soin de soi autrement que de surveiller son poids et puis aussi des vertus de l'activité physique. Donc, ce livre-là, il est quand même très original parce qu'il y a des témoignages dans ça de personnes qui ont fait la paix avec leur corps et vous avez de nombreuses photos qui montrent la diversité corporelle et puis aussi, il y a quelques trucs, quelques recettes qui vont vous donner de l'énergie pour justement mieux bouger.
Ces deux livres sont déjà en librairie?
Oui, c'est en librairie.
D'accord.
Et puis c'est un livre de nutrition pas comme les autres. Vous pouvez l'ouvrir, feuilleter, lire une partie de chapitre, remplir un questionnaire. C'est un livre assez ludique. Moi, j'aime bien cette nouvelle formule.
Ah, je te crois si tu nous le conseilles.
Ah oui, c'est ça.
T'es coup de cœur.
Oui.
Je veux dire.
Puis j'ai trouvé un autre livre aussi très original qui s'intitule écoutez bien ça, bouger pour un cerveau en santé. Alors ça, c'est un titre qui est accrocheur. Moi, qui ai écrit des livres sur la nutrition et le cerveau, ben, j'ai découvert que Richard Chevalier, auteur, qui quand même détient un bac en nutrition physique et une maîtrise en physiologie de l'exercice, eh bien, il a pris le temps d'écrire un livre qui est fort bien fait, qui est très, très bien, qui est très, très bien référencé. Dans la bibliographie, à la fin, vous avez des articles scientifiques qui appuient ces dires. Eh bien, moi, je dis bravo à Richard Chevalier, qui quand même a pris du temps, il s'est documenté et il parle des effets de l'exercice sur le cerveau. Alors ça, c'est un sujet qui, en fait, ça fait presque une vingtaine d'années que les scientifiques anglophones publient sur ça, beaucoup de publications, beaucoup de livres en anglais, et là, on a quelque chose en français qui n'est pas une traduction.
Alors, tant mieux alors.
Si vous avez le goût de vous remettre tout simplement à la marche ou de pratiquer un sport que vous aimez, eh bien, achetez ce livre, lisez sur les vertus sur le cerveau. Il y a également des vertus sur le corps, sur le moral. Il vous propose des types d'exercices, des petits programmes pour commencer. C'est bien fait, c'est bien écrit. Et puis moi, ça a été un coup de cœur pour vraiment là. Un premier livre, à ma connaissance, francophone au Québec sur bouger et le cerveau.
Et surtout qu'on lui demande de consommer local tout le temps. Voilà,
c'est une manière. Absolument, c'est une manière de
se déplacer à la librairie. Voilà.
Ne coûte rien. Vous pouvez marcher dans votre quartier. Ne coûte rien.
Bon, c'est gratuit en plus. C'est comme le souris qui voit l'électricité, ça donne la lumière et puis c'est gratuit en plus. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre.
Ben, c'est ça. Ouais. Oui. Alors voilà, donc c'était ma petite chronique d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Louise.
Avec mes suggestions de livres. Et la semaine prochaine, on va parler de collationner à d'autres moments de la journée.
Surtout les gens qui font les travaux durs, là, les gens qui sont dans la construction ou bien quelque chose comme ça.
Oui,
les agriculteurs et autres, là, ils doivent collationner tout le temps parce que c'est physique.
Oui, c'est très, très physique.
Très physique.
Mais vous pouvez, le travail intellectuel aussi, ça permet de.
Ah ouais. Non, on ne doit pas s'oublier parce qu'on est dans un bureau, non.
C'est ça. Donc, collationner, ça peut être important, mais il faut manger les bons aliments.
Merci beaucoup, Louise. À la semaine prochaine.
Je t'en prie.
On se retrouve le lundi, hein.
À lundi, oui,
ah, voilà. Absolument. Lundi, c'est pas férié.
Non, c'est pas férié, c'est le dernier lundi du mois de mai.
Voilà, allez, bon reste de semaine à toi.
Merci toi-même, au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, Louise vient de nous donner encore quelques nouveautés concernant comment collationner et bouger d'ailleurs, ça fait du bien pour le corps et le cerveau. Mais le corps et le cerveau en santé, donc ça va nous permettre de disons en gros, si vous écoutez tant les chroniques de Louise, c'est tous les lundis, hein, c'est parce que c'était férié hier que je l'ai reçu aujourd'hui. Là, il va falloir la semaine prochaine, le lundi, elle sera là, à 17h, effectivement, pour nous donner d'autres idées, d'autres conseils, et puis des coups de cœur de livres pour ceux qui aiment lire. Mais si vous n'êtes pas des accros de livres, voilà, de temps en temps, s'acheter un petit livre comme ça pour essayer de savoir qu'est-ce que les scientifiques en nutrition nous disent. C'est quelque chose de génial, non? Voilà, en attendant, je vais recevoir tout de suite une autre invitée. Non, lui, ce n'était pas une invitée, c'est une chroniqueuse de nutrition, docteur en nutrition. Anna Graziani, qui est propriétaire de la boutique de fleurs Floriste Italia et qui participe à l'exposition Fleurs de Ville Femmes qui se passe actuellement, je dis bien actuellement, depuis le 20 jusqu'au 29 au complexe des Jardins, Fleurs de Ville Femmes. Voilà, c'est leur première exposition à Montréal. Alors, je vais vous le dire, allez-y sur le site Fleurs de Ville Femmes, vous allez voir toutes les belles statues là-bas enrobée de, habillée de fleurs, de jolies fleurs. Qu'est-ce que Anna nous a choisi? Je laisse la surprise, c'est elle qui va nous le dire. Bonjour Anna Graziani.
Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, honnêtement, on n'a pas choisi, on nous a proposé. Donc
ils vous ont proposé. Je croyais que c'était votre choix personnel, Nina Simone.
Non, c'est ça, c'est toutes des femmes très extraordinaires. Et donc, ils nous ont chacun donné une de ces femmes extraordinaires. Et la mienne, c'est Nina Simone, la chanteuse et pianiste fameuse de
la jazz. La grande Nina Simone.
Oui, la grande Nina Simone, fantastique. Et donc, je me suis inspirée un peu de la photo qu'ils nous ont donnée, proposée. Oui. Et de là, on a choisi les couleurs et le thème de notre présentation, qui est le mannequin qu'on voit à Complexe des Jardins. Donc voilà, c'est ça, c'est la raison pour laquelle j'ai cette fameuse dame-là.
C'est beau, voilà. C'est beau, je suis passé par là.
Pardon, j'ai pas compris.
Je suis passé par là, j'ai déjà vu, je vais repasser d'ailleurs. Oui. Pour les yeux, c'est du plaisir, c'est du bonheur.
Ah, c'est vraiment fantastique, l'esprit, c'est la première fois et on avait besoin de quelque chose comme ça pour nous donner de la vie.
Un grand merci à vous, Anna, et toutes les autres fleuristes qui ont été choisies. Oui. Comment vous vous êtes sentie quand vous vous êtes vue sur la liste, quand ils vous ont contacté, les organisateurs ou organisatrices?
Oui, j'étais très contente, j'étais fière de ça, c'est vraiment quelque chose de... Écoute, on a tous un peu peur parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, comme c'est la première fois.
Oui.
Finalement, en se concentrant vraiment là, travailler très fort, on a tous vraiment bien réussi. Je suis fier de toute l'équipe, tout le monde qui a travaillé sur ça. Je pense que tous les mannequins sont magnifiques. Et voilà, c'est tout un beau travail et j'espère que l'année prochaine, on le ferait encore.
Oh, ça va revenir!
Ben, c'est à toutes les années, oui, j'espère. J'écoute, je suis beaucoup de monde qui font Fleurs de Ville partout au Canada et c'est toutes les années.
Oui.
C'est la Fleurs de Ville à un certain moment de l'année. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se produire, mais j'espère.
Oui, oui. Pour ça, oui, on espère, moi aussi. C'est une exposition, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une exposition florale qui a ouvert ses portes au public depuis le vendredi 20 mai. Anna devait être avec nous, mais ça n'a pas pu marcher, mais elle est là aujourd'hui avec nous, elle en parle. J'ai vu les œuvres là-bas, mais quand j'ai vu les mannequins de ces femmes, de Céline Dion, Nina Simone, la jeune fille poète qui a, comment dirais-je, quand je vais sur le site, la liste même est beaucoup plus longue que ce que je vous exposez. Il y a 15 comme ça, je me suis dit, waouh, waouh, avec des fleurs, ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous avez déjà fait un travail comme ça auparavant?
Non, c'est la première fois d'une grandeur telle et surtout sur un mannequin en fleurs naturelles. Pas évident, mais on étudie un peu le plan, on se prépare mentalement et avec... tous les fleurs, le thème, on choisit particulièrement quelque chose qui suit un peu le thème. J'ai choisi des couleurs un peu ternes pour aller avec le jazz, les couleurs dans les mauves, les couleurs fumées un peu pour, tu sais, on pense le jazz.
C'est ce que j'ai vu sur votre mannequin. C'est ce que j'ai vu d'ailleurs.
Ouais, des très belles couleurs. Voilà.
C'est ce que j'ai vu sur votre mannequin d'ailleurs. Ouais, une célébration toute en fleurs inspirée par des femmes remarquables.
Oui,
et faites par des femmes remarquables aussi, vous les fleuristes.
Ah, depuis, c'est gentil.
Oui, depuis combien de temps vous faites ce métier?
Depuis
comment on devient fleuriste?
Premièrement, la fleuristerie, c'est la passion première des choses, parce que c'est un travail, on ne sait jamais quand on commence, jamais quand on finit, on n'a pas d'heure.
C'est tout un art, Anna.
C'est tout un art, et on n'arrête jamais d'apprendre. C'est un très beau métier pour quelqu'un qui aime l'art floral, mais on choisit, ça nous choisit, je pense.
Wow!
Ça nous choisit. J'étais dans le domaine du voyage avant, donc ça m'a vraiment choisi.
Oui, je suis allé me promener un peu sur votre site web. Là, c'est tellement bien fait, tellement organisé. Quand je regardais vos bouquets de fleurs, là, je me suis dit, mais ça fait combien d'années elle fait ce métier? C'est la question que je me suis posée d'abord.
longtemps. Assez longtemps, 30 ans. La boutique existe depuis 43 ans, donc ça fait assez longtemps.
43 ans!
Oui, ça fait 43 ans qu'on est là. C'était ma mère avant moi et j'ai repris après. Et voilà, on est rendu à quasiment 44 ans ici, le mois de décembre. Donc, c'est assez longtemps.
C'est une affaire familiale qui va continuer.
On va essayer, mais après moi, je ne vois pas une continuation, malheureusement. Mais on ne sait jamais. vais essayer de trouver quelqu'un pour continuer notre legacy, on dit en anglais.
Ah, oui, oui, oui. Est-ce que le fait que vous avez été contacté par l'organisation, les femmes qui sont en arrière là-bas, qui vous ont contacté, Fleur de Villefemme, c'est deux femmes originaires de oui. Vancouver, de la Colombie-Britannique, oui. qui ne oui. parlent pas français, raison pour laquelle je ne pouvais pas les recevoir en entrevue.
Ah, mais tu sais, elle parle un petit peu français, Tina. Barclay parle un peu français.
Mais c'est ce que la responsable de communication... La responsable de communication nous a dit « Ouais, bon, c'est des anglophones, c'est des femmes ouais. de BC. » Il dit « Bon, je préfère avoir les grandes fleuristes de Montréal en entrevue pour en parler. »
Et voilà.
Alors, est-ce que ce projet vous a donné d'autres idées, vous, à vous, personnellement, des choses que vous aimeriez créer à partir de... c'est un gros projet, quand même. Un mannequin, habillé, un mannequin en fleurs naturelles.
Ouais. Si ça m'a donné d'autres idées, écoute, oui. Ça m'a montré que oui, je serais capable éventuellement faire des projets dans cette grandeur-là. Mais ici à Montréal, ben c'est difficile de préparer un projet gros comme ça toute seule. C'est sûr que les commandites sont très importantes de nos grossistes, oui. Surtout Fleur Expert et Marcelet, c'est les deux qui nous ont aidés beaucoup.
Oui.
Et donc, c'est sûr qu'avec l'aide des grossistes, on pourrait toujours avoir d'autres projets, mais local, ben, ça prend une équipe. Hein. Ça prend vraiment une équipe pour préparer des affaires comme ça. On ne se fait pas ça à notre idée tout seul parce que c'est beaucoup de sous, les fleurs sont chères.
Oui, donc, oui. Je comprends.
Il y a toujours une possibilité, on va dire. Il y a oui. toujours une possibilité.
Ah, je me suis dit, peut-être, ça vous a donné quelques idées, vous et les autres fleuristes de Montréal, de vous
Absolument.
Mettre ensemble pour essayer de réaliser les choses. Après ce oui. grand événement, d'ailleurs, qui, pour ceux oui. qui ne l'ont pas encore vu, je vais citer quelques noms de ces grandes femmes remarquables. Il y a Frida Kahlo, il y a Céline Dion. Frida Kahlo, qui est sans doute la femme peintre la plus connue du temps moderne, qui est célèbre pour ses autoportraits révolutionnaires et ses œuvres inspirées par la nature et les objets de son pays natal, qui est le Mexique. Ensuite, oui. il y a Coco Chanel, dont on n'a plus rien de présenter. Créatrice de mode et femme d'affaires française, Chanel est connue pour avoir créé une esthétique chic et non conformiste durant l'ère du corset. Oui, ça c'est bien Chanel, ça.
Oui.
C'est en célébrant la libération des femmes et en révolutionnant l'industrie de la mode qu'elle est devenue une icône. Et puis il y a Farah Alibé, la franco-canadienne qui est ingénieure système au Jet Propulsion Laboratory de la NASA et qui a travaillé sur les missions InSight, Mars Cube en mars 2020. Et puis Malala Yousafzai, l'activiste, la jeune pakistanaise qui a eu le prix Nobel de la paix, qui fait partie de ces statues, de ces mannequins-là. Et puis Annick Bissonnette, c'est la pionnière, première danseuse de grand ballet canadien de Montréal.
Oui.
Durant près de 18 ans, elle a été acclamée par la critique internationale pour sa technique classique et sa grande sensibilité musicale. Ce mannequin rend également hommage à toutes les femmes artistes féminines de la danse, spécialement à Ludmila Cherieff, fondatrice des Grands Ballets Canadiens. La liste est là, 13 ou bien 15 statues.
15.
15. Allez-y, déplacez-vous. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, déplacez-vous là-bas, allez-y voir ça tranquillement. Et puis, bon, ben, vous allez ça va faire du bien. Qu'est-ce que, s'il y a des jeunes filles qui nous regardent, qui nous écoutent, là, qui ont envie de se lancer dans ce métier de fleuriste, quel est le petit conseil que vous avez à leur donner?
Ah! Premièrement, vraiment d'aller travailler dans une boutique qui est quand même assez occupée pour voir vraiment tout ce qui touche la fleuristerie et non juste la vente de fleurs.
C'est vraiment
voir profondément de voir qu'est-ce qu'il y a à apprendre et non seulement la fleur, mais aussi les plantes et tout ce qui touche notre métier.
Oui.
D'être capable d'endurer les longues heures, d'être debout, et vraiment de voir, c'est vraiment une passion, parce qu'il faut vraiment que tu sois passionné de ce travail-là, parce que ça demande beaucoup d'heures de travail. Et ensuite de ça, vraiment apprendre tout ce qu'il y a à apprendre là-dedans, par l'école et aussi en boutique, pour que quand on se lance, on est prêt vraiment à être capable d'aider le monde à choisir, surtout pour les mariages et tout ce qui touche la fleuristerie funéraire et toute autre occasion. Ça, c'est très important de connaître vos fleurs, c'est sûr.
Est-ce qu'il y a des écoles de fleuristerie?
Oui, il y a l'école CFAM qui est à Mirabel. Mmh. Et aussi, il y en a plusieurs. Il y en a à Laval, il y en a à Hochelaga aussi, le Faubourg des Métiers, et il y a le Centre Horticole de Laval. Mirabel, ben, il y a notre cher Patrick qui enseigne là-bas, il est magnifique. Donc, c'est de donner vraiment un coup d'œil à cette école-là. C'est particulièrement fantastique. Ils ont aidé beaucoup aussi au lieu, sur les lieux, au complexe. Ils ont fait beaucoup de travail dehors et à l'intérieur. Ils ont fait toutes le grand cœur en métal, ils ont fait les balançoires. Ils ont fait un travail fantastique. Donc, c'est vraiment d'aller voir... pour s'inspirer de ce que les étudiants ont fait un très beau travail.
Oui. Avec cette exposition Femmes Fleurs de Ville, rendre hommage à ces femmes qui ont marqué la culture et l'histoire en leur dédiant des mannequins floraux. Quand je suis rentré, je me suis rendu au complexe des jardins, je regardais vos mannequins là, habillés de fleurs naturelles, je me suis dit, waouh. Mais ouais. Ces fleuristes, c'est des artistes. C'est des artistes.
Oui.
C'est quelque chose. Oui, vous l'êtes. Et puis sur votre site est tellement bien organisé. Mais c'est pas vrai. Je vais lui demander une entrevue. C'est ce que je me suis dit. Je vais lui demander une entrevue. Voilà, ça peut vous servir vraiment. Et la collaboration où les gens, les vos collègues, vous les avez pas connus auparavant. Est-ce que tous les fleuristes se connaissent à Montréal? Non.
J'en connaissais quelques-unes là-bas. Surtout, il y en avait qui c'est des nouveaux. Ça fait quelques années qu'ils sont dans le métier, donc je les ai pas connus.
Oui.
Mais quelques-unes je connais. Mais j'ai fait des connaissances. On a fait amitié. On s'est donné notre contact sur Instagram, une carte d'affaires. Et c'est sûr que l'unité fait la force. Donc, on doit s'entraider comme fleuriste et comme artiste.
Oui.
Et j'ai connu du très beau monde. J'ai eu tellement du fun là-bas. C'est vraiment incroyable.
Quelle belle opportunité de réseautage.
Absolument, absolument. Ouais. On ne connaît jamais assez de monde dans notre métier. Hein?
Oui. Il y a Valérie Milo, première harpiste aussi, qui a représenté là-bas, qui a remporté le prestigieux prix d'Europe en 2008. Valérie est reconnue pour la maturité de son instinct musical ainsi que pour la force et le raffinement de ses interprétations. Donc pour ce mannequin, des interprètes en musique ainsi que qui représente et souligne la contribution d'une pionnière, Antonia Nantel, cofondatrice de l'Orchestre symphonique de Montréal et l'organisme festival de Montréal. Je dis merci à vous. Oui. Encore bonne exposition, ça finit le 29.
Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine.
À la prochaine, au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Ah ouais. Restez à l'écoute, après la petite pause publicitaire, je reçois le directeur artistique, général et artistique du festival, le Festival Classica, qui a dévoilé sa programmation. C'est la 12e édition, le Festival Classica de Saint-Lambert. Allez, à tout de suite après la petite pause publicitaire.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà. Comme le dit la belle voix de Jean-Sébastien, la bonté des responsables techniques. Vous êtes toujours à l'écoute de l'escale 17-18 avec Fulgence Blas au micro, bien sûr. Mon invité est déjà au bout du fil. Il va nous parler de la 12e édition du Festival Classica de Saint-Lambert. Marc Boucher, qui est le directeur général et artistique de ce festival. Bonjour Marc Boucher.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup. Je ne sais pas comment il a vécu les 2 ans de pandémie avec le festival. Comment vous avez fait durant les 2 ans là? Comment le festival a survécu?
Ben, ça a été une longue attente, hein. Longue attente pour nous tous. On va se le dire comme ça.
Oui.
Et on est très content de revenir avec des concerts en salle avec des gens démasqués.
Oui.
Alors, on a que 2 années qui ont été assez éprouvantes pour tout le monde.
Oui.
Et puis maintenant, ben, je pense qu'il faut regarder ça avec beaucoup d'enthousiasme parce que le soleil est là, le printemps, l'été arrive. Et puis voilà, la musique va résonner à nouveau avec des salles complètes. Et puis voilà.
Surtout qu'il n'y a plus de restrictions, c'est 100% les salles.
Exactement. Les salles, c'est à pleine capacité et les gens... Le passeport vaccinal n'est plus exigé, ainsi que les gens sont démasqués dans les salles. Donc voilà, le retour à une certaine normalité et on s'en réjouit grandement.
Comment vous vous sentez?
Ben c'est en fait fébrile, fébrile, oui, fébrile parce que Parce que, ben voilà, 2 ans, on a quand même fait des concerts pendant, par exemple, le printemps dernier, mais on était à 20% de capacité des salles seulement.
Oui.
Et les gens devaient être masqués. Donc, ça a été compliqué. Et là, on est soulagé. En fait.
Oui.
Voilà, si vous me demandez vraiment, c'est un soulagement, oui, après 2 ans.
Bravo. Bravo à vous et à toute l'équipe d'avoir pu réunir toutes ces grosses têtes d'affiche. Et puis, comme vous le dites si bien, cette 12e édition du festival constitue une nouvelle illustration du retour en force de concerts vivants.
Exact.
Elle se déclinera sous le signe de la reconnaissance avec une programmation toute italienne qui va plonger les festivaliers au cœur de la sensualité, du lyrisme. Claudio Monteverdi est souvent identifié au passage entre la musique de la Renaissance et la musique baroque. De son côté, Ennio Morricone, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé,
a marqué
l'histoire de la musique de film. Ça, c'est une de vos citations. C'est beau,
oui,
hein?
Je ne me reconnaissais pas.
C'est vous.
Non, c'est moi qui ai dit ça.
Bon, ouais, c'est vous qui l'avez dit.
Il dit des choses parfois qui ont un certain sens.
Ouais.
Qui parle d'Italie, parle de sensualité, parle de lyrisme.
Oui.
Toute cette chaleur de cette musique italienne, justement, de Monteverdi, jusqu'à Ennio Morricone. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très chaud, très méditerranéen, si on pourrait dire ça comme ça.
Oui.
Et puis voilà. Donc, beaucoup de concerts qui, moi, sont des coups de cœur, par exemple, on a programmé 5 Stabat Mater, qui sont des œuvres, on va dire, pour orchestre et solistes vocaux.
Mmh.
Et donc, il y a des choses, le Stabat Mater, entre autres, de Vivaldi, qui est une œuvre que j'ai découverte quand j'étais tout préadolescent et qu'il me tardait un jour d'intégrer dans le festival. Et donc, ce sera fait cette année.
Oui.
Et voilà.
Sans omettre Scarlatti. Hein?
Scarlatti, Boccherini, Sanchez, et puis... Il m'en manque un, Pergolèse. Ben oui, alors voilà.
On a cinq
Stabat Mater cette année avec des solistes extraordinaires, des ensembles formidables en musique ancienne. Beaucoup de musique ancienne, étonnamment, cette année.
Oui.
C'est le hasard. C'est le hasard qui a fait ça. Et donc, mais aussi des compositeurs italiens qui méritent d'être découverts, comme Alfredo Casella, lors de notre concert de clôture avec Elisabeth Pion, pianiste, et Stéphane Détroux, violoncelliste, qui n'a plus besoin de présentation.
Oui.
Et évidemment, lors de ce concert bouquet final du 19 juin, Marie-Nicole Lemieux, première présence au festival. Donc, écoutez, c'est des belles surprises, de la belle visite, et beaucoup d'enthousiasme.
Oui. Et puis, bon, quand je vois le nom des artistes locaux, là aussi, j'ai dit, mais c'est intéressant, le festival ne laisse personne à la gare, tout le monde est dans le train.
Tout le monde est dans le train. C'est bien dit. Écoutez, je vais vous engager pour mes citations. le constat de ça, c'est qu'en réalité, au Québec, on a tout ce qu'il faut sous la main.
Oui.
Des solistes vocaux extraordinaires. Et puis des musiciens extraordinaires. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire vraiment des concerts de très haut niveau.
Oui. Ouais. Ouais. Quels sont les différents lieux?
Les différents lieux, ben, principalement à Saint-Lambert, comme toujours.
C'est là le QG du festival.
Oui, le QG du festival. Mmh. Donc la majorité des concerts sont à l'église catholique du 41 Lorne à Saint-Lambert.
Oui.
Une église qui a une capacité d'à peu près 600 places.
Oui.
On va aussi aller du côté de Saint-Constant, sur la rive sud, avec les 4 saisons de Vivaldi, avec Florence Malgoire, une invitée de Marc, mais pas de moi, mais de Marc, M-A-R-Q-U-E.
Oh, Q-U-E. j'ai compris, Marc.
Et donc, mais c'est une invitée de Marc, M-A-R-C aussi.
Oui.
Et donc, Florence qui est une des des Concertmeister en musique ancienne des plus réputés en Europe.
Oui.
Elle vient nous visiter. Et ensuite, on va aller du côté de Boucherville avec les Vêpres de la Vierge de Monteverdi, une œuvre magnifique, grandiose, sous la direction de Mathias Mott. On ira aussi à Varennes. On ouvre, en fait, le festival à Varennes avec la Messa di Gloria de Puccini, Giacomo Puccini, et Nicolas Ellis avec l'orchestre de l'Agora. Et ensuite, on est aussi du côté de Mirabel avec un concert de concerto de flûte à bec virtuose avec l'ensemble Caprice. Et on est, ou comme tout à l'heure, je l'indiquais, le concert de clôture se fait. En fait, il y a deux concerts le 17 juin. La musique de film de Ennio Morricone avec l'Orchestre symphonique de Longueuil sous la direction d'Alexandre Dacosta qui va jouer et diriger avec la soliste Florence K. qui vient pour ce concert qui est tout dédié à la musique de film de Ennio Morricone.
Oui.
Ça, ça aura lieu à Longueuil, à la co-cathédrale, magnifique co-cathédrale, le 17 juin et le 19. Donc, le concert Story dont je vous parlais avec Marie-Nicole Lemieux, Elisabeth Pion et Stéphane Tétrault, l'orchestre du Festival Classica sous la direction d'Alain Trudel. Et donc, ça mettra le point final, le bouquet final à cette édition du Renouveau.
Wow! Et ce festival existe depuis 2011.
Depuis 2011,
Oui. Elle a été fondée en 2011.
Oui.
J'ai dit bravo à vous et à votre toute l'équipe. Comment ces artistes locaux que vous avez contactés pour prendre part à cette 12e édition, comment ces artistes, d'une manière, voilà, comment ils ont réagi? Ils ont dit, oh, pourquoi moi? Ou bien, vous avez pensé à moi, je suis très heureux, ou bien d'autres qui ont hésité? Alors, comment ça s'est passé? L'approche?
Ben, écoutez... Après, il faut absolument, votre question, il faut la placer dans le contexte pandémique. Donc, on va se dire que il y a eu des hauts et des bas. Vous savez, l'été dernier, tout s'est un peu relaxé. Durant l'été, on rouvrait les salles, tout ça. L'automne dernier, les salles étaient ouvertes aussi. Il y avait des restrictions sanitaires, mais on sentait que les choses allaient en s'améliorant. Et tout à coup, 19 ou 20 décembre, si ma mémoire est bonne, nouvelle vague, je me souviens même plus si c'est la quatrième, la cinquième ou la sixième, mais peu importe, donc nouvelle vague qui vient encore une fois compliquer toutes les choses. Et donc, depuis 2 ans, en fait, ça a été une bataille continuelle. Et là, qu'on reprogramme, nous, en dépit de tout, parce qu'on ne savait même pas... Vous savez, au mois de février, on ne savait même pas si l'édition actuelle allait pouvoir être devant public ou non.
En février, on ne parlait même pas de la suppression des mesures sanitaires.
Exactement. Donc, tout se passe très, très vite. Tout s'est passé très vite. Mais nous, en dépit de ce qui se passait, on avait quand même engagé, programmé les concerts et on se disait, bon, mais s'il n'y a pas de public... On fera ça, on va filmer les concerts et on les fera dans une, on les présentera en web diffusion éventuelle, tout ça. Mais donc, simplement pour répondre à votre question, les musiciens sont, d'abord il faut dire qu'ils ont, ils ont énormément souffert. Le monde de la musique a énormément souffert de cette pandémie.
Le monde des arts.
Le monde des arts en général, vous avez raison, parce que il n'y a pas, comme on dit, ça, c'est un grand problème qu'il va falloir un jour il va falloir se pencher sur ce problème, c'est-à-dire on est des travailleurs autonomes quand on est musicien, donc on n'a pas accès à l'assurance chômage ou des trucs comme ça. Donc que l'on programme en dépit de tout ces concerts-là et qu'on décide même si on n'avait pas pu faire devant public de les faire, ça a été un grand soulagement. Donc mais il faut, rendons à César ce qui lui appartient. Le gouvernement actuel a soutenu le milieu des arts de façon importante et a donné aux organismes les moyens financiers de s'engager, d'être responsable de l'engagement de ces artistes. Et donc, on arrive avec une édition, fort heureusement, là où tout s'est relaxé en l'espace de 2 mois, encore une fois, très rapidement. Et donc, ça commence le 27 mai, dans quelques jours, dans 3 ou 4 jours. Donc,
c'est dans trois jours.
Ben oui, dans trois jours.
Du 9 juin, quand même, c'est 3 semaines quand même, à peu près.
Ah oui, c'est ça. Il y a des concerts presque à tous les soirs.
Oui.
Et voilà, je pense que les musiciens vont être ravis de partager devant qui sera là, parce qu'il faut quand même, on va quand même dire les choses comme elles sont. Il va falloir travailler très, très fort pour rebâtir les achalandages qu'on avait pré-pandémie.
Oui.
C'est-à-dire que si on regarde, là, le niveau de vente des billets est inférieur à ce qu'on avait il y a 2 ans. Les gens sont peut-être un peu frileux encore, mais bon, ben écoutez,
Les années à venir, ça va revenir. Mais on se dit, c'est un semblant de normalité. Bon, pour la dernière minute qui nous reste, Marc, un dernier mot à ceux qui n'ont jamais pris part à ce festival, ou bien les habitués qui se disent, est-ce que on peut faire ça le comble? Est-ce que je peux y aller? Un dernier mot pour la dernière minute qui nous reste, s'il vous plaît.
Ben, vous êtes invités. Tous et toutes sont invités.
Oui.
Et il va y avoir de la place puisque nos salles sont ouvertes à pleine capacité.
Oui.
Venez, c'est le printemps, c'est l'été, c'est de la musique magnifique. Venez goûter au soleil de l'Italie dans cette 12e édition.
Oui.
Et puis, on vous attend.
Et puis, il y a un site web, festivalclassique.com. Si vous voulez avoir toutes les informations, ce dont on vient de parler, vous allez retrouver tout là-bas avec sur ce site. Merci à vous, Marc Boucher, directeur général et artistique de ce festival, et à toute l'équipe qui est derrière vous, qui est avec vous pour cette 12e édition. Merci à vous et à bientôt.
Merci pour cette entrevue.
Bonne 12e édition.
Merci, au revoir.
Au revoir. When I see a girl that I catch a fever, make I can never leave you alone. Always want to see you. I hear a voice on the phone. Cause I know something, something, something special about you. 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 Feelings coming over, never felt this way for nobody. Suddenly I'm in need. It's like I'm asking for weed and can't find it. It's like you're my addiction. I never know you could be the one until I've seen it. About you, something, something, something special about you, something, something, something special about you, something, something, something special about you. I'm doing.
special about you. Something, something, something special about you. Something, something, something special about you. Something, something,
something about you. Gypsy on something special. Voilà, je vais parler un peu de quelqu'un en tennis qui vient de prendre sa retraite après sa défaite face à un de ses adversaires, bien sûr. Ça se passe au Roland Garros. C'est Joe Wilfried Tsonga. Oui, voilà, c'est fini pour lui. Alors, je me dis, moi, je peux pas faire l'émission d'aujourd'hui sans parler de lui. C'est sa défaite face à Casper Ruud. Casper Ruud, je parle pas, c'est un Norvégien, si je me trompe pas. Qui a battu le grand Joe Wilfried. Ouais, c'est passé comme ça à Roland-Garros. De toutes les façons, il avait déjà dit qu'il avait été sélectionné pour cette phase finale de Roland-Garros. Il a dit que je gagne ou je perde, c'est la fin de ma carrière. C'est fini. Voilà, j'arrête. J'ai assez donné. Je ne veux plus entendre parler de tennis. Voilà, c'est ce qu'il a dit. C'est fini. Je l'aime bien. Ah, quand il avait battu, je me rappelle bien, en 2008, le grand Rafael Nadal en demi-finale d'un de ces grands chelems là. Voilà, ça c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Là, je ne sais pas quel âge il a maintenant, il doit avoir 37 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Non, je ne vais pas raconter n'importe quoi, je vais revenir là-dessus. Donc, il est revenu sur son émotion de... Moi, j'ai vu le résumé du match, moi, c'était très émotionnel. Il a beaucoup été encouragé par l'équipe, par le public français, par le public en général. Il a été rejoint sur la piste, sur le court, par ses proches, sa famille, après la rencontre, bien sûr. Et puis, les questions ont fusé de partout. Les gens voulaient savoir. Voilà, c'était la folie. C'est une des plus belles ambiances que j'ai vécues dans ma carrière. Et elle arrive sur mon dernier match. Je ne pouvais pas demander mieux. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Voilà, c'est on lui demande son programme à venir. Mais laissez-moi me reposer un peu d'abord. Je viens d'avoir 18 ans de carrière au tennis quand même, 18 ans de carrière. mais ça a été quelque chose quand même de très 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 puissant. Parce qu'il a failli croire à sa victoire, hein, il faut le dire. Et il a failli croire. Il a été battu par ce jeune Casper Ruud, ce jeune Norvégien, 6-7, 7-6, 6-2, 7-6. Ça, il a failli croire, ça c'était son premier match d'ailleurs. Et après 18 ans de bon et loyaux service, il dit au revoir, il tisse sa révérence. C'est ce qui fait que quand je parle souvent du tennis ici, et puis je parle et je fais un clin d'œil à Roger Federer, je me dis, je pense pas qu'il va revenir. Si vous vous rappelez de l'entrevue que j'ai eue ici avec le journaliste américain qui a écrit un livre sur Roger Federer, tout nouveau, tout neuf d'ailleurs, qui a dit il ne pense pas, ou bien qu'il va revenir pour un match de démonstration de revoir, comme vient de le faire Joe Wilfried Tsonga, parce que Federer, il n'est pas jeune non plus, même Nadal, je pense bien que ce sont les derniers tournois qu'il est en train de jouer comme ça. Le tennis, à partir de 30 ans, c'est comme la grande Serena Williams, je ne pense pas qu'elle va revenir non plus. Il se pourrait qu'elle revienne, elle et sa soeur, qu'elle et deux soeurs reviennent, pour un match de revoir, un grand match, et pour dire au revoir aux fans, aux gens qui les ont suivis depuis le début, dont il a failli croire. Voilà, il a cru à sa victoire. Le public l'encourageait. Tout le monde savait qu'il arrêtait après ce match. Les gens voulaient qu'il gagne ce match pour passer au deuxième tour, mais son physique l'a trahi en fin de rencontre. C'est ça. C'est un sport très, très, très physique. Et puis, c'est pas collectif, c'est individuel. Tu as face à quelqu'un ton bras, tes genoux, ta tête. C'est à la seconde que tu dois prendre la décision dans quelle direction tu dois faire bouger cette petite boule, ce petit ballon, ce petit ballon avec ta raquette. Et les sauts, les quand tu... Mais je me rappelle bien qu'il avait commencé ce garçon, moi il me fascinait. C'est comme là aussi, tous ceux là quoi. C'est le physique, tu peux pas aller jusqu'à 40 ans, non c'est pas possible. Si c'est un sport d'équipe, au moins on se supporte. Oui, on se tient, mais un sport individuel comme ça. Donc pendant 2 heures, il a tenu la draguée haute au Norvégien. C'est un Norvégien, ce jeune, ce Casper Ruud là, qui est récent vainqueur à Genève d'ailleurs, menant jusqu'à 3-2 dans le tiers break du deuxième set. Ah, quand j'ai vu le résumé du match, je me suis dit, waouh, ça c'est quelque chose. Bravo à toi, Joe Wilfried Tsonga. Bravo pour les 18 ans de bonheur. Bonne retraite. Et on espère te revoir de temps en temps comme ça dans les circuits de tennis pour les matchs de démonstration avec les anciens. Il est parmi les anciens maintenant. Il compte parmi les anciens. Et condamné à prendre tous les risques possibles pour inverser la tendance. Mais ça n'a pas marché, ce match. Moi, je lui souhaitais la victoire pour que les gens puissent l'applaudir encore au deuxième tour de Roland-Garros. Et ça se passait où? En France, chez lui. Alors, oui, mais... on n'y peut rien. Les larmes aux yeux... je me rappelle, il s'est mis à genoux, la famille l'a rejoint sur le court, et puis tu te dis, oh, l'émotion était là, l'émotion était là. Pour ceux qui n'ont pas vu ça, allez-y sur YouTube ou bien sur plein de sites, vous allez voir ce match-là. Joe Wilfried Tsonga, son dernier match dans sa carrière, après 18 ans de cours de tennis, il faut le faire. Alors, je pense bien que quand les Félix Auger-Aliassime voit ça, dit bon ben je pense que je vais faire 18 ans de carrière, ouais, ou bien une vingtaine d'années aussi, pourquoi pas, parce que c'est lourd, les tournois sur les tournois. À un moment donné, de toutes les façons, les millions déjà, ils avaient du plaisir, ils ont du plaisir, c'est pourquoi ils jouent jusqu'à 30, 34, 35, 36, 37 ans. Si je suis à 18 ans de carrière, s'ils n'ont pas de plaisir, c'est pas seulement pour l'argent. Oui, l'argent, c'est les millions qui coulent, oui, d'accord, mais si le plaisir n'est pas là, c'est comme l'a fait la première mondiale, l'Australienne qui est partie, qui a arrêté. Alors, de toutes les façons, je sais que je vais revenir sur Joe Louis Tsonga qui vient d'arrêter sa carrière de tennis après 18 ans. C'est un Français, un Franco-Camerounais. C'est un Français, 18 ans de carrière, de bons et loyaux services au tennis mondial. Alors, je dis à bon entendeur salut, parce que je vais revenir sur ça. Mais, là, maintenant, oui, après le petit jingle, je vais parler de la saga Mbappé, Kylian Mbappé, un autre, lui qui n'arrête pas de faire parler de lui. Kylian Mbappé.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Voilà, Kylian Mbappé, le phénomène Mbappé. Enfin, l'annonce est tombée le samedi, en fin de semaine. Il fallait le faire. D'ailleurs, j'en parlais en fin de semaine passée. Il ne savait pas, il n'avait même pas encore signé avec le Real Madrid. Il y a eu des contrats. Il a eu le contrat avec le Real Madrid, il a eu le contrat avec le PSG où il joue actuellement, le Paris Saint-Germain. Mais il n'avait pas encore signé, mais la décision a été prise. Ouais, ça a été pris, c'est sûr. Il reste à Paris pour 3 années, les 3 années à venir jusqu'en 2025. Mais ce qui énerve un peu les gens, c'est que vous dites que les gens disent que. Pourquoi il est resté à Paris pour de l'argent? Parce que je vous le dis, ce garçon de 23 ans, c'est des sommes faramineuses qu'on lui donne. C'est de l'argent, c'est fou ce qu'on lui donne comme argent. Sincèrement, il faut le dire, je ne sais pas si dans l'avenir, les clubs vont dépenser assez d'argent. Mais il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain est détenu par les Qataris. Hein. Oui, oui, oui. Le Qatar, c'est les Qataris qui sont propriétaires du club parisien, le PSG, Paris Saint-Germain. Voilà. Donc c'est ça, ils ont mis le paquet quand ils ont su que le Real Madrid mettait boucher double. Ils n'ont pas vu le contenu du contrat du Real Madrid. Madrid dit, bon ben on te donne 100 millions d'euros comme bonus, sans compter le contrat lui-même. Alors, les Qataris ont fait le doublé. Ils ont triplé même. Ils ont dit, on donne plus que ça. On donne plus que ça, 3 fois plus que ça alors. Alors là, il fallait prendre la décision, quoi. Ouais. Et puis non seulement ça, Mbappé, il a de très belles relations avec l'ancien président français Nicolas Sarkozy et l'actuel président Emmanuel Macron. Ceux-là aussi ont joué dans ce choix. Ils ont dit, mais tu vas pas nous quitter, il faut rester à Paris, on t'aime bien. Et puis ils sont tous deux supporters du Paris Saint-Germain. Et Mbappé, c'est un Parisien, il aime bien sa ville. Il a quitté Monaco, il a rejoint le PSG en 2017. Donc, il a signé un nouveau contrat avec les Qataris, avec le PSG. Voilà, c'est beaucoup. Hein. C'est estimé, bon, son salaire annuel au PSG est par ailleurs estimé à 17,5 millions d'euros brut, avec sa prolongation en 2022. Là, maintenant, dernièrement, là, en fin de semaine, des chiffres astronomiques ont été avancés, parlant de 300 millions d'euros sur 3 ans, et même une prime de 300 millions d'euros. C'est fou. C'est fou. Les gens se disent, mais ce n'est plus du football. C'est une question d'argent. Voilà. Ça rend les gens un peu, pas jaloux, mais ils disent, mais non, le sport perd sa valeur intrinsèque. Le sport qu'on va regarder, on les applaudit, on l'aime bien, ces footballeurs, ces joueurs de soccer. Mais c'est un peu... Mais c'est le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur. À 23 ans, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Ah. Et puis, il s'exprime très bien. Il parle et puis, voilà. Depuis 2017, il est là. Il voulait partir depuis l'année passée. Non, ça n'a pas été le cas. C'était pas clair. Et puisque son contrat finit en juin, là, le mois prochain, il voulait partir. Bon, il y a eu beaucoup de pression. Il y a d'autres équipes qui le voulaient parce que Liverpool, par exemple, c'est l'équipe préférée de sa maman. Liverpool, sa maman a eu des pourparlers avec Liverpool parce que ce sont les parents qui les gèrent. Hein. Sa maman et son papa. Je ne sais pas s'il est encore à la maison. Là, je ne vous dis pas ça. Là, c'est sa vie privée. Alors, la saga Mbappé n'est pas finie. Ça fait couler des salives. Restez à l'écoute. Merci à toi, Nicolas. Je dis merci aussi à Louise Dupré qui est Louise Thibault, pardon. Et un grand merci à notre fleuriste Anna Creaziani et à Marc Pouchet aussi. Merci à nos fidèles auditeurs. Et sur ce, prenez soin de vos minutes. Je vous dis ciao et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M.